Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Psachim, page 50, DAF Nun.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Psachim. La Gemara nous ramène un pasuk, Vaya Bayom Aou, Lo Yehor Yekarot Vekiporon. Arrivé le temps du Mashiach, alors il y aura Lo Yehor Yekarot Vekiporon. Trois explications. Première explication, Rabbi Lazar nous dit que la lumière qui était très importante dans ce Olam Hazé sera beaucoup moins importante dans Olam Haba, c'est-à-dire que la chose la plus importante qu'on avait, en fin de compte, va perdre de sa place puisqu'il y aura des choses qui seront plus importantes. Rabbi Yochanan nous dit que tout ce qui était dur à étudier sera beaucoup plus facile à étudier. Rabbi Shabbat Nevi nous dit que les gens qui sont importants dans ce monde seront beaucoup moins importants dans Olam Haba, comme l'histoire du fils de Rabbi Shabbat Nevi qui a perdu connaissance. Et quand il est revenu, son père lui a dit « Qu'est-ce que tu as vu ?» Il a dit « J'ai vu un monde à four. Ceux qui étaient importants sont moins importants, ceux qui sont moins importants sont plus importants. » Et son père a rétorqué, en vérité, c'est ça le vrai monde. Il lui a demandé quelle est la place des Talmidei Chachamim. Il lui a dit, eux, ils ont toujours leur place. Et autre chose qu'on a dit à ce sujet-là, Shremi Shebalekan et Talmudo Biado, heureux celui qui vient et qui connaît tout ce qu'il a étudié. Et autre chose que j'ai entendu, Arugé Malchut, ceux qui ont été tués par le roi, personne ne peut se retrouver au même endroit qu'eux dans l'Olam Haba. Qui sont ces Arugé Malchut? La Gemara nous dit, si on parle de Rabbi Akiva qui a été tué par les Romains, forcément ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Puisque l'importance de Rabbi Akiva, ce n'est pas seulement parce qu'il a été tué, parce qu'il a terminé sa vie par les Romains. Toute sa vie, toute la vie de Rabbi Akiva est quelque chose qui amène à une place très importante et personne ne peut être à côté de lui. Forcément on parle d'autre chose, on parle de Arugé Loud, les deux frères qui se sont dénoncés comme s'ils avaient tué la fille du roi alors que ça n'était pas eux. La Gemara ramène la suite du passage qui est marqué Bayom Ahou Yeh al Metzilot Asus Kodesh Lachem. Qu'est-ce que ça veut dire Metzilot Asus? Première explication, c'est que Hachem va agrandir les frontières de Yerushalayim comme le temps qu'il faut à un cheval pour courir du matin jusqu'à midi, le moment où l'ombre du cheval se trouve sous lui. Rabbi Lazar nous dit ce qui était pour les décorations qu'on mettait sur les chevaux, c'est-à-dire tout ce qui intéressait les gens à investir dans tout ce qui est matériel. En fin de compte, on va le dédier au Kodesh Lachem de Nebatamidash. Rabbi Yochanan nous dit que tout le butin qui va être pris ce jour-là jusqu'à midi, jusqu'au moment où l'ombre du cheval se trouve sous lui, on va l'amener au Betamidash. La Gemara nous dit d'après la dernière explication, on parle de butin et on parle de richesse qui va être amenée à Betamidash. Je peux comprendre la suite du passage où il est marqué que même les marmites, les choses, les ustensiles les moins importants du Betamidash seront en or et en argent. Mais d'après les deux autres explications, pourquoi est-ce que le Betamidash va déborder de richesse, même si on dit que les décorations de l'animal vont être dédiées à Hachem? En fin de compte, ça n'est pas autant de richesse que ça. La Gemara nous dit, mais la suite du passage, que ça parle d'autre chose, on parle de ce moment-là où le peuple juif va s'enrichir. La Gemara nous pose une deuxième question. Je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il est marqué qu'à ce moment-là, il n'y aura plus besoin d'acheter et de vendre pour pouvoir entretenir le Beth Amikdash. Il n'y aura plus de commerçants qui va s'occuper du Beth Amikdash. D'après la dernière explication qui nous dit qu'il y aura énormément de richesses, le butin va être amené au Beth Amikdash. Mais d'après les deux premières explications, qu'est-ce que ça veut dire que l'eau y est Knaani? La Gemara dit Knaani, c'est en fait comme si on coupait le mot Kanani, il n'y aura plus de pauvres. D'où est-ce qu'on sait que le terme de Knaani en général c'est utilisé pour un terme de commerçant? On ramène la preuve de Yuda qui s'est marié avec une fille de Knaani. Et forcément, ça ne peut pas être une fille de Knaani puisque Abraham a interdit à Yitzhak de prendre une fille de Knaani. Yitzhak a interdit à Yaakov de prendre une fille de Knaani. Donc c'est sûr que Yuda aussi n'a pas pris une fille de Knaani. On parle de commerçant. D'où est-ce qu'on sait que Knaani c'est commerçant? On a ramené deux psukim, on voit que Knaani c'est commerçant. La Gemara passe à la suite des psukim. Il est marqué que Vaya Hashem le Melech al kol haaretz v'hem ahu Hashem echad ushmo echad. Hashem sera un, son nom sera un. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem sera un? La Gemara nous dit que jusqu'à aujourd'hui, dans ce Olam Hazé, quand il y a du bien, on fait une bracha. Quand il y a du mal, on fait une autre bracha de Dayan Haemet. Alors que dans le monde futur, on remerciera Hachem surtout. Il n'y aura pas de mal et on prendra conscience que même le mal qu'on a vécu en vérité était positif. Deuxième partie du passage, il est marqué que Shmo Echad, son nom est un. Qu'est-ce que ça veut dire son nom est un? La Gemara nous dit qu'aujourd'hui, c'est écrit Yud Kevavke, mais on le lit d'une manière différente. Alors que plus tard, on va le lire de la manière où il est écrit. Il y avait un Tamir Rava qui pensait dévoiler et expliquer la profondeur de ce que c'est le Shem Eforash. Et Léonavi lui a dit qu'il est marqué Zeshmi Leolam, c'est marqué Leolam, c'est marqué sans vave, Lealem, il faut le cacher. Ravina ramène ce passage qui pose une question, il est marqué Zeshmi Leolam, donc ça veut dire que c'est quelque chose à cacher. Zeshmi Le Dordor, de génération en génération, donc ça veut dire que c'est quelque chose que tout le monde est au courant. La Gemara explique que le nom de Dieu n'est pas lu comme il est écrit, et donc Zeshmi Leolam, il faut le cacher, mais Zeziri, comment est-ce qu'il est épelé, comment est-ce qu'il est dit par tout le monde? Ça, c'est quelque chose qui doit être dévoilé. On passe au Pérec d'après. La Mishnah nous dit que on doit garder les minagim de l'endroit d'où on vient, et on doit se plier aux minagim de l'endroit où on va. De la même manière, on a l'obligation de faire biour, de se débarrasser des fruits de Shvit, de l'endroit d'où on vient, de par l'endroit d'où on vient ou par rapport à l'endroit où on se trouve, puisque tout dépend de la présence de ces fruits dans les champs. Donc on verra par rapport à la présence des fruits dans les champs de l'endroit où je suis arrivé, ou par rapport à la présence des fruits dans le champ, de l'endroit d'où je suis parti. La Gemara pose une question. Dans notre Mishnah, il est sous-entendu que le minhag de travailler veille de Pessah, c'est un minhag. Mais à partir de Chatzot, c'est interdit. Or, cet interdit, en vérité, on le trouve pas seulement à Pessah, on le trouve aussi pendant Shabbat. Et Yom Tov, il est interdit de faire un travail la veille de Shabbat et le Yom Tov. La Gemara nous donne deux réponses. Première réponse, au sujet des autres jours de fête et de Shabbat, c'est seulement à partir de Mincha ou Lemala, ou 6h30, ou 9h30, alors que la veille de Pessah, c'est à partir de 6h, à partir de Chatzot. Et deuxième réponse, la veille de Shabbat et veille de Yom Tov, il y a un yann de Simon Bracha, mais là, il y a aussi un interdit. L'Agmar nous ramène une liste de choses où il n'y a pas de Bracha. Si on fait un travail Rav Shabbat, Rav Yom Tov, Motzei Shabbat, Motzei Yom Tov, Motzei Yom Kippour, ou même le Motzei de jeûne, ou jeûne de Tisha B'Av, ou jeûne qui était fait pour la pluie, il y avait un interdit de travail. L'Agmara nous dit qu'il y a quatre sortes de personnes, quelqu'un qui fait du zèle et qui gagne, quelqu'un qui fait du zèle et qui perd, quelqu'un qui est paresseux et qui gagne, quelqu'un qui est paresseux et qui perd. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui fait du zèle et qui gagne, il travaille toute la semaine, il travaille pas vendredi. Quelqu'un qui fait du zèle et qui perd, il travaille toute la semaine et il travaille vendredi. Quelqu'un qui est paresseux et qui gagne, il travaille pas toute la semaine et il travaille pas vendredi. Quelqu'un qui est paresseux et qui perd, il ne travaille pas toute la semaine et il travaille vendredi. L'Agmara nous ramène que Rava nous dit que les femmes de Mechosa qui étaient des femmes gâtées, alors c'est pire que d'être paresseux, c'est d'être gâté. Et donc il n'y a aucune chance qu'elles travaillent vendredi, elles recevront quand même un sachar, comme on va l'apprendre tout de suite. Rava nous dit que d'un côté il y a marqué dans le pasouk qui gadol la chamaim chazera, le chesed Hashem se retrouve jusqu'au ciel, alors que d'un autre côté il y a marqué qui gadol mais al chamaim chazera, le chesed Hashem se trouve au-dessus du ciel. De quoi on parle? L'Agmara dit ça dépend. Si tu fais une mitzvah chez l'olishma, c'est un niveau qui est un peu inférieur, alors le chesed sera limité au ciel. Mais si tu fais une mitzvah lishma, alors le chesed il dépassera bien le ciel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que même si on fait une mitzvah chez l'olishma, il faut le faire. Et en fin de compte, on arrivera à un lishma. L'Agmara nous dit que celui qui attend de recevoir du sahar du travail de sa femme ou du sahar de rechaim, de location de moulin, il ne verra pas de bracha. Sahar ishto, on parle de quoi? Une femme qui va travailler, qui va faire un travail qui est dur, qui va travailler dans les marchés, et donc il n'y a pas beaucoup d'argent, et il y a beaucoup d'efforts à fournir, donc il n'y a pas de bracha. Louer du moulin pareil, louer un moulin pareil, beaucoup de travail, pas beaucoup de bracha, mais si jamais on arrive à créer un produit et à le vendre, comme c'est marqué, Sadin Astavatinkor, là il y aura beaucoup de bracha. Autre chose qui est marquée, il n'y a pas de bracha, quelqu'un qui vend des choses où il y a beaucoup de volume, comme des matériaux de construction, ou des marmites et autre chose. Donc, puisqu'il n'y aura pas de bracha, pourquoi? Parce que ça attire le regard des gens, donc il y a un problème de Yenara. Il y a marqué autre chose que ceux qui sont dans les marchés, donc qui exposent leurs marchandises devant tout le monde. Ceux qui font grandir des BMA Dakar. Et donc, ces BMA Dakar vont brouter chez le voisin qui va s'énerver. Et donc, il y aura une kpeda, donc il n'y aura pas de bracha. Celui qui pousse des arbres fruitiers, ou même des stames des arbres, ça attire le regard des gens. Quelqu'un qui, quand il doit partager avec son associé, il est toujours en train de se battre pour avoir le meilleur. Encore une fois, ça attire le regard des gens. Tout ça, c'est un problème, ça empêche la bracha. Autre chose qui est marquée, quatre sortes de business qui ne ramènent pas d'argent. Quelqu'un qui est sofer, quelqu'un qui est meturgaman, c'est-à-dire qui répète la darasha du rav, quelqu'un qui fait la gestion des biens d'orphelins, et quelqu'un qui fait du business très loin de chez lui. Quelqu'un m'a dit, je comprends trois sur les quatre choses que tu as ramenées, j'en comprends trois. L'argent du meturgaman, je comprends parce qu'il travaille le Shabbat et donc ça donne l'impression qu'il reçoit son salaire sur Shabbat. L'argent des Yetomim, forcément, il peut faire des erreurs et les Yetomim ne peuvent pas être mochel et donc il a volé de l'argent. L'argent qui vient de loin, bah évidemment, il y a plusieurs étapes jusqu'à que tu voyes cet argent, donc il y a beaucoup de risques. Mais l'argent des Sofrim, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bracha? L'Agmara nous dit que Rabbi Shimon Levi raconte que les Anshek Nesetak de là ont jeûné 24 jeûnes pour être sûr qu'il n'y reçoit pas de bracha. Pourquoi? Parce que s'ils deviennent trop riches, ils vont arrêter d'écrire et donc il n'y aura plus de mesouza, il n'y aura plus de filin. L'Agmara nous dit que non seulement eux, les ceux qui écrivent des tefillin, les mezuzot, n'ont pas de bracha, mais tous ceux qui sont mis à sec avec eux, les commerçants, ceux qui vont aller vendre leurs marchandises, et tous ceux qui vendent même les tzitziot n'ont pas de bracha. Pourquoi? Pour la même raison, pour qu'on puisse s'assurer qu'il y ait ces produits dans le peuple juif. Mais si jamais ils le font, les shem shamaim, alors oui, il y aura une bracha. L'Agmara nous ramène une histoire au sujet de gens qui avaient l'habitude de ne pas se déplacer la veille de Shabbat de Tzour vers Tzidon. Leurs enfants sont venus chez Rabbi Yochanan, ils ont dit nos parents étaient riches, ils n'avaient pas besoin de travailler vendredi, nous on a besoin de travailler, d'aller au marché vendredi, et donc on veut pouvoir se déplacer. Rabbi Yochanan leur a dit, il est impossible de changer le minhag de vos parents. Les gens de Chouzaï avaient l'habitude, eux, de faire un fachat trala de rim, et Rabbi Yosef leur a dit, allez envoyer quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui mange cette trala pour qu'ils comprennent que ça n'est pas une trala, puisque un fachat trala, seul un Kohen peut la consommer, et donc allez leur faire comprendre que ça n'est pas un fachat trala. Ah bah, il lui demande, mais comment tu as pu permettre ça? C'est vrai que c'est une fausse rumra, mais il est marqué qu'il est interdit de permettre une fausse rumra devant des gens qui pensent que c'est interdit. Il lui a dit, Rabbi Yosef, oui, mais ça c'est marqué au sujet des coutumes. Ah bah, il dit, mais ça veut dire quoi, c'est marqué au sujet des coutumes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire devant des coutumes? Puisque déjà leur judaïsme est très léger. Et donc si on va être mezalzel dans ce qu'ils pensent être une chumra, alors eux-mêmes vont être mezalzel dans tout. On a exactement le même problème avec ces gens-là qui, de toute façon, leur judaïsme est très léger. Si tu leur permets, si tu es mezalzel dans leur chumrot, ils vont être mekel dans tout. Donc Rabashi nous dit en vérité, le problème il est autre. Ben, en vérité, si la majeure partie des gens là-bas ne faisaient afrasha trala, ne mangeaient que du riz, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Puisqu'il vaut mieux conserver ce mina qui est une erreur pour que les gens se rappellent qu'il a une obligation de faire afrasha trala. Mais si en général, ils mangent du blé, et le blé est chayav de afrasha trala mina Torah. Et donc eux, ils pensent que le riz aussi est chayav de afrasha trala mina Torah. Et donc ils vont faire afrasha trala du riz sur le blé, et bien il va sortir de cette chumra, il va sortir une catastrophe, puisque eux vont consommer leur blé en s'appuyant sur l'afrasha trala qu'ils ont fait sur le riz. Or, cette afrasha trala n'est pas considérée comme une bonne afrasha trala, donc le blé qui va être consommé est un blé interdit. C'est pour ça que cette chumra, qui n'a pas lieu d'être, et non seulement n'a pas lieu d'être, mais en fin de compte, va les amener à une erreur. C'est pour ça qu'il faut leur annuler cette chumra pour qu'ils comprennent que c'est interdit. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. La première chose qu'on a vu, c'est l'importance, ce qui va se passer au temps de Yemot HaMashiach, la bracha qu'on va avoir au Beth HaMikdash et le Shem HaShem qui va s'unifier. La deuxième chose qu'on a vu, c'est les minagim qu'on doit respecter de l'endroit où on sort et de l'endroit où on arrive. L'interdit qu'il y a la veille de Pessah et l'interdit qu'il y a la veille de Shabbat est différent à deux niveaux, à partir de quand c'est interdit et la gravité de l'interdit. L'importance de ne pas travailler l'éveil de Shabbat, comme on a vu, la gravité de celui qui travaille l'éveil de Shabbat, la bracha qui ne se trouve pas dans les choses qui sont trop présentes aux yeux des gens, donc on attire le regard ou on attire leur peda, l'impossibilité d'annuler un minag des anciens, et l'importance d'annuler un minag qui peut amener à faire une erreur, comme on l'a vu au sujet de la fracha trala. Le daf est clair, Baruch HaShem, et à demain, Bezrat HaShem.